VOA Afrique, Washington DC. Bonjour au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au moins 9 militaires nigériens ont été tués lors d'une offensive djihadiste dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Selon deux sources sécuritaires, mercredi, des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest se déplaçant à bord d'une dizaine de véhicules armés de mitrailleuses ont attaqué tard mardi une position militaire dans la ville de Magoumeri. Des renforts de l'armée arrivés du chef-lieu de la région Maïdougouri, situé à 50 km, ont affronté les assaillants alors qu'ils se retiraient et en ont tué 20, selon les mêmes sources. Au Mali, la junte au pouvoir a nommé le général Oumar Diarra chef d'état-major général des armées et procédé à plusieurs autres nouvelles nominations à différents postes clés de l'armée et de la sécurité 2 semaines après le putsch contre le président Ibeka. Le décret de nomination daté du 1er septembre a été signé par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le général Diarra remplace le général Abdoulaye Koulibaly à la tête d'une armée qui a perdu des centaines d'hommes ces dernières années dans le combat contre les djihadistes, malgré le soutien de forces françaises, étrangères et onusiennes. La représentante des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, a refusé mercredi l'amnistie préalable et l'intégration dans l'armée régulière des groupes armés pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Amnistier, c'est dire que les faits n'ont jamais existé, a expliqué la diplomate algérienne, rappelant ainsi son passé de magistrate. Leila Zerougui était interrogée en conférence de presse sur les échecs des programmes dits de DDR, désarmement, démobilisation, réintégration des combattants de groupes rebelles en RDC. L'intensification des attaques djihadistes dans le nord du Mozambique fait affluer des dizaines de déplacés vers le chef-lieu de la province de Cabo Delgado, multipliant les risques de propagation de COVID-19, a alerté mercredi la Croix-Rouge. Des familles sont arrivées à pied par la route ou par bateau dans la ville côtière de Pemba, déjà en foyer de contamination au coronavirus, et d'autres sont attendues dans les semaines à venir, dans la foulée d'attaques récentes à Mocimboa da Praia et d'autres zones de la province, précise le CICR. Les autorités sanitaires américaines ont demandé aux États de préparer la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus d'ici début novembre, soit avant l'élection présidentielle. Si plusieurs vaccins sont actuellement en phase d'essai clinique, il n'est pas certain que l'un de ces vaccins sera effectivement efficace et sûr, mais les autorités préparent déjà d'ores et déjà une distribution éventuelle afin de gagner un temps précieux selon l'AFP. Selon l'agence Reuters, le président Donald Trump a signé ce mercredi un mémo dans lequel il menace de stopper le financement fédéral des villes de non-droit, dont Seattle, Portland, New York et Washington. M. Trump a fait du maintien de l'ordre l'un des principaux thèmes de sa campagne pour la présidentielle du 3 novembre. Le mémo ordonne au ministre de la Justice, William Barr, de rédiger une liste des juridictions anarchistes qui ont permis la violence et la destruction de biens et refusé de prendre des mesures raisonnables pour rétablir l'ordre. Et puis, 2 jours après la visite de M. Trump, son rival démocrate Joe Biden va rencontrer ce jeudi à Kenosha la famille de Jacob Blake, l'Africain-Américain grièvement blessé par balle par un policier blanc. Cet incident a provoqué une nouvelle vague d'indignation contre le racisme et des émeutes dans cette ville du Wisconsin, un état clé pour la présidentielle de novembre. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations. En Guinée, le président Alpha Condé a finalement rompu le silence après plusieurs mois de suspense et confirmé ce mercredi sa candidature à un troisième mandat. Le point avec Michel Joseph.
À partir de maintenant, je m'engage parce que vous, vous avez décidé que je m'engage, a déclaré M. Condé, 82 ans, s'adressant par vidéoconférence à des femmes du RPG. Elles avaient organisé une manifestation de soutien à sa candidature à la présidentielle programmée le 18 octobre. Des partis ont parlé, mais ma décision est prise à partir de votre union et votre engagement. Car sans les femmes, on ne peut rien faire, a dit M. Condé, qui se présente comme le candidat des femmes et des jeunes. Son parti, le Rassemblement du Peuple de Guinée, a déjà annoncé lundi que M. Condé avait accepté d'être son candidat. Par contre, le Front National pour la Défense de la Constitution, collectif de partis, syndicats et membres de la société civile, a affirmé que la contestation va maintenant entrer dans une phase décisive. Le FNDC appelle à se préparer à la reprise des manifestations en qualifiant d'illégitime cette troisième candidature de M. Condé.
L'ONU déplore la poursuite des violations de l'embargo sur les armes en Libye, en vigueur depuis 2011. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, s'est exprimée hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU à Abdourahmane Diack.
Selon Mme Williams, depuis le 8 juillet, environ 70 avions ont atterri dans les aéroports de l'Est en soutien de l'armée du maréchal Khalifa Haftar, pendant qu'une trentaine d'appareils ont été envoyés dans des aéroports de l'Ouest de la Libye en appui au gouvernement d'Union, le GNA. 9 cargos se sont amarrés dans des ports de l'Ouest en soutien du GNA, pendant que 3 navires sont venus bénéficier aux forces pro-Haftar, a ajouté la responsable, sans donner d'indication sur le contenu des cargaisons. Stephanie Williams dénonce une atteinte à la souveraineté de la Libye et une violation flagrante de l'embargo de l'ONU sur les armes. Les soutiens étrangers renforcent leurs capacités dans les principales bases aériennes libyennes, à l'est et à l'ouest, a précisé la diplomate. La mission de l'ONU en Libye, dont le mandat doit être renouvelé à la mi-septembre, continue de recevoir des informations sur une présence à grande échelle de mercenaires et d'agents étrangers, ce qui complique les chances d'un règlement futur du conflit, a-t-elle précisé.
Les États-Unis ont imposé mercredi des sanctions économiques à la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda. Washington a également inscrit sur sa liste Fakiso Mochochoko, un cadre de la CPI qui siège à La Haye. Nathalie Barge.
Nous passons de la parole aux actes, a déclaré hier le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Tout individu ou entité qui continuera à assister ces individus s'expose également à des sanctions, a-t-il prévenu, ajoutant que Washington ne tolérait pas les tentatives illégitimes de la CPI pour soumettre les Américains à sa juridiction. Le président Donald Trump a autorisé en juin des sanctions économiques contre les responsables de la CPI après l'ouverture d'une enquête sur des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. Washington avait révoqué le visa de Fatou Bensouda. Soulignant son indépendance, la Cour pénale internationale a déploré des attaques sans précédent à son encontre. Les États-Unis ne sont pas signataires du statut de Rome qui régit la Cour et qui a été ratifié par plus de 120 pays.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Une partie importante du budget destiné à lutter contre le coronavirus en Afrique du Sud a été détournée, révélant des niveaux effrayants de corruption. C'est ce que dénonce dans un rapport l'auditeur général du pays, Kimi Makwetu. Des dysfonctionnements sur l'allocation de 147 milliards de randes ont été signalés à la police. Kimi Makwetu affirme qu'il y a des indices clairs de prix gonflés, d'attributions inéquitables de contrats et de fraudes potentielles. Le ministre sud-africain du Travail, Tula Sani Eksi, a ouvert 38 enquêtes pénales. Le président Cyril Ramaphosa avait donné instruction en juin dernier à Kimi Makwetu d'éplucher les dépenses gouvernementales en faveur de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ailleurs, dans l'actualité économique, l'ONU prévient que la pandémie de Covid-19 grippe sérieusement le financement de l'innovation et pourrait encore accélérer le transfert de compétences vers l'Asie. Le plus grand risque, c'est que les dépenses et les moyens de financement de l'innovation ne partent en vrille au moment où l'économie mondiale connaît un coup de frein, a déclaré mercredi Francis Gurry, le patron de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Pour l'heure, il n'y a pas d'estimation précise de l'ampleur de la chute des investissements dans la recherche et le développement provoquée par la pandémie, mais d'après Francis Gurry, il y a des signaux clairs que les sources de financement de l'innovation s'achèvent partout sur la planète. Pour autant, tout le monde n'est pas égal devant cette raréfaction des financements et pour Francis Gurry, ce sont les jeunes pousses, les start-up, qui ont besoin de financement sur le long terme et celles qui sont installées dans les pays en développement, comme en Afrique, qui vont en pâtir le plus.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La FIFA et la CAF ont créé une commission conjointe pour entendre ce jeudi, par visioconférence, les acteurs de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne, à laquelle l'ancienne star Didier Drogba est candidat. Les membres de la commission électorale et du comité d'urgence et le président de la FIFA, Sidi Diallo, et son secrétaire général seront entendus. La commission FIFA-CAF sera composée de deux membres de la FIFA et d'un représentant de la commission de gouvernance de la CAF. Selon le courrier adressé à la FIFA daté du 1er septembre, la FIFA a suspendu le 27 août le processus électoral au sein de la FIFA après le rejet du dossier de Didier Drogba. Selon la commission électorale, Drogba n'a pas rassemblé les parrainages suffisants pour présenter une candidature. La FIFA a annulé la semaine dernière une décision de la FIFA qui suspendait la commission électorale, mais un nouveau rebondissement avait ensuite eu lieu avec la démission du président de la commission, René Didi. Difficile pour Lionel Messi de rester au FC Barcelone, c'est ce qu'a affirmé Jorge Messi, le père et agent de la star argentine. Interrogé sur les chances de transfert de Lionel Messi vers Manchester City, Jorge Messi a coupé, je ne sais pas, il n'y a encore rien, je n'ai pas parlé à Pep Guardiola, je n'ai parlé à personne, a balayé le père et agent de la légende du football qui a atterri hier à Barcelone alors que son fils est en plein conflit avec le club catalan qu'il veut quitter. La Pulga ne s'est pas présentée dimanche et lundi pour la reprise du club. Au Brésil, l'égalité salariale homme-femme en sélection de football sera désormais une réalité. La Confédération de football a décidé d'attribuer le même montant pour les primes et les indemnités journalières pour les hommes et les femmes, a déclaré le président de la Confédération, Rogério Caboclo. La Fédération australienne de football a été la première à promouvoir l'égalité salariale entre hommes et femmes en novembre 2019. En mai, les championnes du monde américaines ont été défaites sur le terrain judiciaire, un magistrat ayant débouté leur demande d'égalité de rémunération. Basketball, l'ancien basketteur américain Michael Jordan, aujourd'hui propriétaire de l'équipe NBA des Charlotte Hornets, a pris une participation au capital de la plateforme de Paris DraftKings, dont il va devenir le conseiller, a annoncé l'entreprise. Créé en 2012, DraftKings était initialement spécialisé dans les jeux sportifs virtuels. Avant de faire son entrée dans les paris sportifs en 2018, la Cour suprême des États-Unis ayant de fait autorisé en 2018 les États à légaliser les paris sportifs, le secteur a explosé. Selon le site Legal Sport Betting, 13 milliards de dollars ont été pariés légalement aux États-Unis sur les événements sportifs en 2019.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la reprise dans les universités initialement prévue ce 1er septembre était dans l'impasse suite au refus des étudiants de s'aligner sur les propositions des autorités. Finalement, certains étudiants ont eu gain de cause après une large concertation entre leurs représentants et les responsables universitaires. C'est le cas à Dakar qui abrite les chers Antadiop, qui accueillent près de 100 000 étudiants. Reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
La proposition initiale était une reprise en trois phases, dont la première devait concerner les étudiants de licence 3 et de master 1. Une proposition rejetée par les représentants des étudiants, Babacar Ndiaye Moukaboro, président de l'Amicale des étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime que le plan initial n'était ni cohérent ni à leur convenance.
Avant tout, il fallait nous intégrer, nous associer, en tout cas sur ce plan de reprise. Et que cela n'a pas été fait, ce que nous dénonçons d'abord. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui s'est fait pour moi, sans moi, moi je considère qu'il est fait contre moi. Donc on ne peut pas concevoir quand même. On élabore un plan de reprise qui concerne directement les étudiants et que ces étudiants-là ne sont pas associés sur ce plan de reprise, ne sont pas associés sur la réflexion.
Malgré leur désaccord et leur mécontentement, les étudiants ont préféré éviter l'argumentaire musclé des affrontements avec les forces de l'ordre. Pour éviter un bras de fer inutile, les délégués des étudiants et les autorités universitaires ont donc trouvé un accord. Seydou Abdoul Diop, coordonnateur des amicales des écoles et instituts, en explique les contours.
Nous voulons quand même que les modes de lutte changent. C'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause que vous allez balayer à nous. Donc que nous avons nous aussi rédigé une proposition de plan que nous avons soumis au recteur, qu'un accord a pu être trouvé entre les différentes parties. Donc cet accord est plus large. Nous avons pu obtenir aussi un retour global des écoles et instituts, un retour global pour la faculté de médecine. Les facultés à gros effectifs comme la faculté de lettres avec 30 000 étudiants, nous avons quand même pu négocier que les spécificités puissent être prises en compte et qu'il y ait plus de liberté dans le choix des corps qui vont revenir.
Du côté du Centre des œuvres universitaires de Dakar, l'on se veut rassurant sur les conditions de la reprise. Mansour Ndoye, chef du département des services techniques, affirme qu'avec l'accord entre les autorités et les étudiants, tout devrait bien se passer.
Il y a une partie déjà de l'université qui a repris, à savoir la FASTEF et l'université Amadou Makhtarmo. Il y a les prestations qui se font là-bas correctement. Par rapport maintenant au reste de l'université Cheikh Anta Diop, effectivement, un accord a pu être trouvé. C'est l'assemblée de l'université qui a eu délibéré pour donner la date du 1er comme date de reprise. Ce que certains étudiants n'avaient pas totalement accepté, mais bon, heureusement, ils ont pu trouver un consensus.
Si le protocole de reprise est mis en place pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Amadou Makhtar Mbow et celle du Sine Saloum, d'autres universités du pays restent bloquées par le refus des étudiants. À Saint-Louis, ils ont même décrété un mot d'ordre de grève assorti d'un accès gratuit au restaurant universitaire. Une situation tendue à laquelle les autorités peinent pour le moment à trouver une solution. À Dakar, Sedina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Le coronavirus a créé une nouvelle norme scolaire avec des élèves qui apprennent grâce à des applications vidéo et des chaînes de télévision dans de nombreux pays, dont par exemple l'Ouganda. Si beaucoup ont adopté la nouvelle norme, toutes les familles n'ont pas les moyens de payer pour ce qui est des données ou même de l'électricité. Reportage d'Alima Atoumani à Mukono en Ouganda, repris ici par Lionel Gahim.
Moussa Sewanyana, 14 ans, maîtrise l'art de la fabrique de briques. Mais depuis que l'Ouganda a fermé les écoles en mars dernier pour contenir la propagation du coronavirus, Sewanyana a très peu d'options.
Pendant cette relâche scolaire, je lis toujours mes livres. Si nous recevons de l'argent, nous allumons la télévision et suivons les cours. Je fais aussi des petits boulots dont je ne passe pas toute la journée à la maison.
Contrairement aux familles qui sont en mesure de payer pour les études en ligne, Sewanyana ne peut pas toujours se permettre le luxe de regarder les leçons à la télévision nationale ou l'abonnement de $3 par jour au réseau électrique. Sa mère, Naïga Rachida, dit que les 5 derniers mois ont été difficiles avec 3 enfants à la maison.
Nous n'avons pas d'électricité. J'avais même acheté un nouveau poste de télévision pour qu'il puisse l'utiliser pour étudier. Mais il y a des moments où même la batterie solaire ne se recharge pas et la télévision s'éteint.
Le gouvernement a promis d'acheter des téléviseurs et des radios pour les communautés pauvres, mais la promesse n'est pas encore réalisée. Une subvention de 150 millions de dollars de la Banque mondiale en juillet devrait aider à fournir du matériel didactique aux élèves et étudiants ougandais. Mais le directeur par intérim de l'enseignement de base, Mulindwa Ismail, affirme que les dégâts sont déjà faits, y compris pour les établissements scolaires qui ont été vendus ou qui sont restés vacants.
Les chaises et quoi d'autre sont rongées par les fourmis. Au moment où nous rouvrirons les écoles, nous aurons peut-être besoin d'acheter un nouveau mobilier. Mais cela dit, perte d'emploi pour nos enseignants et perte de propriété. Peut-être même perte de nos élèves. Nous craignons que beaucoup ne reviennent pas à l'école.
Des associations caritatives comme UWEZO, qui signifie capacité en kiswahili, affirment que le Covid-19 a provoqué à la fois une crise sanitaire et éducative. Lorsque les écoles rouvriront, d'après Marie Goretti Nakabugo, directrice générale d'UWEZO, les enfants devront rattraper le temps perdu.
Le point de départ sera d'essayer de donner une évaluation pour comprendre le niveau de chaque enfant. Sinon, si vous les prenez dans leur ensemble, beaucoup seront des laissés pour compte et ce seront principalement ceux des familles à faible revenu.
Parallèlement, le ministère ougandais de l'éducation prépare une campagne à l'intention des parents pour encourager l'enseignement à domicile.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Gabon, Libreville abrite depuis quelques semaines un programme de scolarisation pour enfants issus de milieux défavorisés et orphelins. Le programme est parrainé par un jeune artiste connu sous le nom de Général Christ 12 étoiles. Il entend lutter contre l'exclusion sociale et scolaire des enfants vulnérables de la capitale gabonaise. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Est-ce que quelqu'un peut nous donner un exemple des homonymes?
La leçon du jour porte sur la maîtrise des homonymes. Enseignant de français, Georges Mesu fait partie de la dizaine de bénévoles du programme Zéro Découragement et Éducation Plus. Il organise une séance de remise à niveau à l'intention des pensionnaires de la maison d'accueil Les Bons Samaritains du quartier Kingélé à Libreville. L'échange de quelques heures vaut aussi pour une prise de contact avec ce petit monde qu'il découvre à l'instant.
Un enseignant, c'est quelqu'un qui a ces capacités-là de pouvoir étudier les enfants, même s'il ne les connaissait pas.
Fondée en 2017 par Célestine Wanga, simple femme au foyer, ce centre héberge aujourd'hui une vingtaine d'enfants en difficulté sociale dont les parents sont connus ou pas de la responsable des Bons Samaritains.
Il y a d'autres que je ne connais pas, ni la mère ni le père, je ne connais pas. Mais il y a d'autres, je connais la grand-mère, l'oncle. Et d'autres, je connais aussi les effets qui ont des mères et des pères qui n'ont aucun revenu, alors qu'ils sont là, je ne sais pas les chasser. Non.
Autre lieu, autre orphelinat. Nous allons au nord de Libreville, à 5 km de Kingélé, pour une immersion dans l'univers des petits anges de la deuxième cité des logements sociaux d'Angondji. Parmi les enfants qui y séjournent avec le rêve d'une vie d'adulte accomplie, nous rencontrons Ruth Owanga, 17 ans, une bonne élève de la classe de première, admise cette année en terminale.
Je veux être comptable, mais après cela, faire des dons, faire du bénévolat, ouvrir des orphelinats, aider même les parents qui sont dans les hôpitaux.
Après avoir perdu sa mère à l'âge de 9 ans, Ruth a connu des moments difficiles avec un père sans revenu. Sa situation a suscité une chaîne de solidarité du voisinage avant d'être enfin conduite au centre Les Petits Anges. Comme des centaines d'autres jeunes, Ruth est bénéficiaire du projet que porte le jeune danseur social international, Francelle Christelle Ngunga Djuratari, plus connu sous le pseudonyme de Général Christ.
Je constatais que l'aide qu'on apportait plus aux enfants, c'est vrai qu'il y a des personnes de bonne foi qui apportent pendant la période scolaire de fourniture aux enfants, mais aujourd'hui, après ça s'arrête là. Entre-temps, aujourd'hui, moi je pense que l'éducation des jeunes gabonais, c'est une priorité dans la nation. Et les jeunes qui sont dans les centres aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez poser des questions aux jeunes lorsque vous finissez les études, là où vous allez. Vous allez voir que c'est le chômage comme tout le monde.
Si les moyens le lui permettent, Général Christ souhaite atteindre d'autres grands centres urbains du Gabon pour être au chevet d'autres enfants en difficulté. Libreville, Ismaël Obionzé pour VO Afrique.
Au Cameroun, les autorités mettent en garde la population contre les charlatans qui se font passer pour des guérisseurs, en particulier pendant la pandémie de coronavirus. Elles affirment que si certains médicaments traditionnels ont un usage médical prouvé, de nombreux faux guérisseurs cherchent à arnaquer les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer la médecine moderne. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, relaté par Nathalie Barge.
Pour les maladies qui grandent dans le corps, on peut soigner.
Un marabout utilise un haut-parleur pour attirer les passants, appelant les personnes qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes de santé dans les hôpitaux à venir le voir. Les autorités camerounaises affirment qu'il y a plus de 800 guérisseurs traditionnels dans la capitale Yaoundé. Selon l'association camerounaise des guérisseurs francophones, ils sont au moins 19 000 dans tout le pays. Nadège Avoulou, qui accepte les poulets comme frais de consultation, dit être spécialisée dans la guérison spirituelle.
Quand quelqu'un a la maladie des rhumes ou bien le palud, la hernie, tu peux prendre les bails, tu mets ça dans l'eau ou bien la mangue sauvage.
Marie Simbi, une agricultrice de 50 ans, a emmené son fils qui était malade chez la guérisseuse.
Mon enfant était gravement malade, il était déjà partant, mais voilà l'enfant qui court déjà, il fait déjà un peu de tout.
70% de la population dépend de la médecine traditionnelle, car de nombreux habitants des zones reculées n'ont pas accès aux hôpitaux ou n'ont pas les moyens de payer les frais médicaux. Plusieurs médicaments à base de plantes se sont avérés bénéfiques, mais beaucoup d'autres traitements présumés sont à proscrire. Divine Tsala dirige un groupe de 5 guérisseurs qui prétendent avoir traité avec succès des personnes ayant contracté le coronavirus.
Nous avons des statistiques bien documentées, suivies dans le milieu clinique, des personnes âgées qui ont été guéries, des personnes qui ont des comorbidités. Et aussi, nous avons beaucoup de personnes qui ont suivi les protocoles de prévention. Parmi toutes les personnes qui ont pris nos protocoles de prévention, il n'y a aucun qui a été testé positif.
Rappelons qu'il n'y avait jusqu'ici aucun remède connu contre cette maladie, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a mis en garde contre les prétentions des charlatans.
Comme tout Africain, nous connaissons très bien quel est l'apport de la médecine traditionnelle dans notre bien-être, dans la santé de tous. Maintenant, pour qu'on puisse mieux l'encadrer, il faudrait que la profession s'organise, qu'on ait des interlocuteurs qui soient bien connus et qu'on ait une liste de tous les praticiens pour pouvoir nous permettre de mieux avancer.
L'Organisation mondiale de la santé a marqué la journée de la médecine traditionnelle africaine le 31 août dernier en impliquant des guérisseurs certifié dans les services de soins de santé. Pour sa part, le gouvernement camerounais a exhorté une nouvelle fois ceux et celles qui présentent des symptômes de la maladie Covid-19 à se rendre dans des centres de santé officiels.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.